Bienvenue à vous si vous nous rejoignez maintenant. Il est midi et demi sur France Culture. Tout de suite, le journal Thomas Cluzel. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Alors que les obsèques de Christine Renon, cette directrice d'une école de Pantin en Seine-Saint-Denis qui s'est donné la mort le 21 septembre dernier, doivent avoir lieu aujourd'hui, le temps de l'émotion et du chagrin s'accompagnera aussi partout en France par des mouvements de grève à l'appel d'une intersyndicale pour pointer le mal-être de toute une profession.
Dans votre journal également, les relations commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis ne sont pas franchement au beau fixe.
Oui, sur décision de l'OMC hier, de très nombreux produits européens importés aux États-Unis vont prochainement faire les frais de la querelle entre Washington et Bruxelles sur les subventions accordées à l'avionneur européen Airbus.
Sylvie Goulard n'est pas parvenue hier à convaincre les eurodéputés qui lui ont réclamé des clarifications supplémentaires avant de statuer sur sa candidature à la Commission européenne.
Un revers aussi pour la présidente du futur exécutif européen, Ursula von der Leyen, dont l'équipe peine décidément à convaincre les eurodéputés. En Irak, la police a de nouveau tiré ce matin sur des manifestants réunis à Bagdad au troisième jour d'un mouvement de contestation qui conspue dirigeants véreux et États incapables de pourvoir la jeunesse en emploi. Enfin, l'invité politique de la rédaction dans une vingtaine de minutes, la députée La République en marche, Barbara Pompili, présidente de la Commission du développement durable à l'Assemblée nationale. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Comment habiter le monde en oiseau, nous répondra probablement notre invitée, la philosophe belge Vinciane Després. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que les oiseaux ont à nous apprendre de notre rapport au monde aujourd'hui? On en parlera donc dans la grande table des idées.
Merci et à tout à l'heure. Dans la cour, les fleurs, mais aussi les dessins à la craie, les mots des enfants sont toujours là, comme autant de témoignages de cette ineffable émotion qui, 10 jours après le drame, n'a pas quitté les élèves, leurs parents, les enseignants et tout le personnel. C'était le 23 septembre dernier. Christine Renon, 58 ans, directrice d'école maternelle à Pantin, était retrouvée morte dans le hall de son propre établissement. Et c'est encore pour lui rendre hommage que plusieurs syndicats d'enseignants appellent à un rassemblement en sa mémoire cet après-midi à Bobigny, à l'appel d'une intersyndicale qui a également déposé un préavis de grève pour l'ensemble de la journée. Enfin, parce que Christine Renon est toujours dans les esprits, plusieurs directeurs et directrices d'écoles de Pantin ont décidé de publier une tribune ce matin dans laquelle ils expriment une souffrance partagée au regard de la dégradation continue et permanente de leurs conditions actuelles de travail et au-delà la perte de sens de leur métier. Une tribune qui fait écho en l'occurrence à la lettre que Christine Renon avait pris soin de laisser à ses collègues avant de mettre fin à ses jours et dans laquelle elle n'évoque rien d'autre que son métier. Les difficultés rencontrées au quotidien, la solitude des directeurs, mais aussi les réformes incessantes et contradictoires, au point de ne plus parvenir à supporter la multiplication et la lourdeur des tâches exigées en permanence. Elle y détaille son épuisement, avant de conclure que jamais elle n'aurait pensé que son métier qu'elle avait tant aimé l'amènerait à ce geste. Alors cet après-midi, enseignants et directeurs des écoles de Seine-Saint-Denis vont donc manifester à Bobigny, mais aussi partout en France. Il s'agira en premier lieu, bien entendu, de rendre hommage à Christine Renon, et puis au-delà d'exprimer donc ce profond mal-être ressenti par toute une profession. Exemple, à Toulouse, dans cette école primaire d'un quartier populaire, où des enseignants se sont confiés à Stéphane Iglesis pour décrire le quotidien de leur direction.
Ils travaillent tous dans cette école primaire d'un quartier populaire de Toulouse, au pied des tours, et ils l'ont choisi. Et la vie impossible de la direction de l'école, ils l'observent tous les jours, Emmanuel, instituteur.
Il y a aussi les instituteurs, les institutrices, qui lui demandent beaucoup de choses toute la journée, de l'aide en permanence. On n'a pas de psychologue, est-ce que tu peux nous en trouver une? J'ai un problème avec la famille de tel élève, est-ce que tu peux m'aider? Tu sais, il y a l'inspectrice qui m'a demandé ça, mais moi je peux pas le faire, est-ce que tu peux lui dire? C'est tout le temps qu'on va le voir, toutes les 5 minutes. Si vous passez 5 minutes dans son bureau, vous apercevrez que toutes les 5 minutes, il est dérangé par une famille, un collègue ou l'institution.
Lucie souligne que le directeur ou la directrice d'école doit pallier à tous les manques de personnel.
Ils doivent aussi s'occuper de faire la plomberie, de s'occuper d'être psychologue, de s'occuper de la gestion des familles, la médiation avec les familles, des assistants sociaux. C'est des métiers de super-héros.
Et quand ils ont des soucis, la hiérarchie n'est pas toujours bienveillante. Michel, institutrice.
On attend de l'aide, on attend du soutien et plus de pression comme ils exercent sur nous actuellement.
Les enseignants grévistes se sont donné rendez-vous dans la rue et devant le rectorat aujourd'hui car le suicide de leur collègue de Pantin a eu un écho considérable.
Alors ce matin, le ministre de l'Éducation nationale s'est dit prêt à discuter du statut des chefs d'établissement, tout en appelant chacun à prendre, je cite, ses responsabilités. Jean-Michel Blanquer a proposé la création d'un comité de suivi associant syndicats et professionnels. Les précisions d'Hakim Kasmi.
Si Jean-Michel Blanquer propose un comité de suivi sur le statut des directeurs d'école, le ministre reste pour l'instant très vague sur son contenu. Il devrait donc s'appuyer sur les propositions de la commission éducation de l'Assemblée nationale qui planche sur leur statut depuis avril dernier. Parmi ces propositions, augmenter leur rémunération, mieux les décharger de leurs heures de classe, mais aussi les mettre sous la responsabilité des principaux de collège dont ils dépendraient, avec une structure appelée EPSF, établissement public des savoirs fondamentaux. Une proposition lancée au printemps dernier par Jean-Michel Blanquer, mais qui ne fait pas du tout l'unanimité chez les enseignants. Françoise Popineau, la secrétaire générale du SNUIPP.
On a besoin d'avoir dans les écoles un interlocuteur direct, un directeur ou une directrice. Le fait d'être rattaché au collège éloigne encore plus la famille de l'interlocuteur dans l'école. Ça, c'est un sujet qui est derrière nous. Nous avons d'autres sujets à mettre sur la table, comme le temps de décharge qui doit être allongé, comme évidemment la rémunération qui doit être à la hauteur des tâches qui sont exigées, et puis aussi une aide à la direction qui permettrait en effet au directeur de se recentrer sur ses missions premières d'animation, de coordination de l'équipe et des projets.
Une aide humaine qui a pratiquement disparu avec la fin des contrats aidés, qui permettait aux directeurs d'école d'être soulagés, notamment pour les tâches administratives. Actuellement, seulement 20% des directeurs d'école sont totalement déchargés de classe, principalement en zone d'éducation prioritaire.
Accumulation de malaise et de rancœur, eux aussi avaient décidé de descendre dans la rue hier à Paris pour exprimer une perte de sens de leur métier face à la multiplication des tâches. Au total, 27 000 policiers auront choisi cette fois-ci de passer de l'autre côté de la barrière pour rejoindre une marche de la colère, l'occasion de clamer leur mal-être face à une inflation de la violence, mais aussi une hausse inquiétante de suicides dans leur profession. Enfin, les policiers en ont profité pour plaider en outre pour le maintien de leur régime spécifique de retraite. S'agissant justement des retraites, après un report d'une semaine dû au décès de Jacques Chirac, Emmanuel Macron se rendra à Rodez dans l'Aveyron ce soir pour un grand débat. En reprenant le format privilégié utilisé pour apaiser la crise des Gilets jaunes, le chef de l'État entend ainsi relancer une grande consultation qui doit s'étaler jusqu'à la fin de l'année. Quant au haut commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye, il reçoit depuis ce matin et pour la première fois depuis son entrée au gouvernement les syndicats de la fonction publique. C'est une tendance qui, depuis quelques années, voit gagner du terrain dans la distribution en France. D'un côté, la libre servicisation du commerce, en clair le transfert des tâches du commerçant vers le consommateur grâce à l'automatisation des caisses. Et puis de l'autre, l'accroissement de l'amplitude horaire d'ouverture des magasins, notamment le dimanche. Et c'est précisément tout l'objet de l'assignation référée aujourd'hui devant le tribunal de grande instance d'Angers d'un prestataire de l'hypermarché Casino qui emploie des salariés chargés d'accueillir les clients à leur passage aux caisses automatiques le dimanche après-midi. Des salariés illégalement employés selon l'inspection du travail. Anne Lorchouin, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors dans le fond, cette assignation en justice ne fait que mettre l'accent une nouvelle fois sur ce vieux serpent de mer que constitue le travail le dimanche, étant entendu alors que la grande distribution fait tout aujourd'hui pour ne pas se conformer à la loi.
Oui, comme par exemple utiliser des prestataires extérieurs pour accueillir les clients le dimanche après-midi. On rappelle que les grandes surfaces alimentaires ne peuvent pas employer de personnel à cette date hors zone touristique. Dans le cas précis du casino d'Angers, le prestataire assigné devant le tribunal est censé offrir ses services pour de l'événementiel. Or, l'inspection du travail fait valoir qu'après deux contrôles effectués, ses salariés avaient pour activité réelle et essentielle la gestion du passage des clients aux caisses automatiques et la gestion des produits et paniers dans les zones de caisse. Ils étaient donc illégalement employés. Christelle Boursin est membre de la CFDT du Maine-et-Loire. Elle rappelle que Casino avait déjà tenté par d'autres moyens de contourner la loi.
C'est pas la première fois effectivement que le groupe utilise d'autres moyens, parfois en prenant des auto-entrepreneurs. Ils ont essayé de mettre en place une hotline pour dépanner les clients. On sait aussi que dans certains endroits, ce sont les vigiles qui guident les clients au niveau des caisses. Or, c'est interdit aussi. C'est pas la première fois. Après, c'est la première fois sur Angers. Un endroit où jusque-là le travail du dimanche n'était pas développé. Puis on est sur une grande surface et jusque-là c'était plutôt cantonné à des petites surfaces.
Et en effet, c'est jusqu'à présent via ces enseignes de proximité des magasins de petite ou moyenne surface que la grande distribution tentait d'enfoncer des coins dans la législation sur le travail dominical. Désormais donc, le combat se déplace dans les hyper. Pour les syndicats, ça n'est pas pour augmenter leur chiffre d'affaires puisqu'il s'agit le plus souvent de reports corps d'achat. La stratégie, c'est plutôt celle du gain de part de marché, c'est-à-dire se substituer aux petits commerces traditionnellement ouverts le dimanche après-midi, épicerie de centre-ville ou boulangerie. Car dans un contexte de consommation stagnante, celle du dimanche reste un des rares leviers de croissance pour la grande distribution.
Merci Anne-Laure Chouin. Elle se sera montrée tenace. Plus de 10 fois, Sylvie Goulard aura répété cette phrase « Si vous voulez bien m'accorder votre confiance ». Visiblement en vain, hier, lors de son audition à Strasbourg, la candidate d'Emmanuel Macron au poste de future commissaire européenne à l'industrie et au marché intérieur n'aura pas réussi à convaincre les eurodéputés qui l'interrogeaient sur ses potentiels conflits d'intérêts, qu'il s'agisse des emplois fictifs du MoDem ou de sa juteuse collaboration en tant que conseillère pour un think tank américain. Pour l'instant du moins, Sylvie Goulard n'a pas obtenu les 2/3 des voix qu'il lui fallait pour valider sa nomination. Marie-Pierre Véraud, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors celle qui est toujours pressentie au portefeuille du marché intérieur va donc devoir apporter de nouvelles réponses sur ces deux affaires la concernant. Mais surtout Marie-Pierre, au-delà du seul cas donc de la candidate française, eh bien c'est en réalité tout le futur exécutif européen qui a du mal aujourd'hui à se mettre en place.
Ah oui, c'est le moins que l'on puisse dire. La présidente de la Commission européenne est prévenue. Ce Parlement lui fera payer cher d'avoir été préférée à l'un des leurs pour diriger l'institution. Les eurodéputés ont déjà retoqué 2 candidats commissaires avant même leur audition, le Hongrois et la Roumaine. Ils demandent de nouvelles explications à certains autres. Ils pourraient aussi ce soir questionner l'intitulé du portefeuille du Grec Margaritis, promis à la migration et à la protection du mode de vie européen, un intitulé qui fait beaucoup tiquer. Quant à Sylvie Goulard, eh bien elle va devoir répondre par écrit à une nouvelle salve de questions, et ce, d'ici mardi prochain, avant, fort probablement, c'est en tout cas l'atmosphère qui prévaut en ce moment, avant donc, si elle ne remporte pas les 2/3 des voix nécessaires en commission la semaine prochaine, de devoir repasser une seconde audition à la mi-octobre, un nouvel oral de 90 minutes. Les députés veulent en fait la maintenir sur le grill le plus longtemps possible avant sans doute de donner leur feu vert. Ses compétences ne sont pas en doute et le bras de fer devrait se poursuivre tout au long de la législature. Face à un hémicycle plus fragmenté et soucieux d'affirmer ses prérogatives vis-à-vis de la commission, il faudra négocier chaque texte encore plus que par le passé, où un arrangement entre les 2 formations majoritaires pouvait suffire. Les eurodéputés ont déjà obtenu d'Ursula von der Leyen qu'elle leur concède un droit d'initiative législative. Ils ont pour la première fois eu leur mot à dire sur les déclarations d'intérêt en amont des prestations des futurs commissaires. Nul doute qu'ils continueront à pousser leur avantage face à une commission dont ils n'ont élu la présidente qu'avec 9 voix de majorité.
Merci Marie-Pierre Véraud. Boris Johnson doit présenter aujourd'hui devant le Parlement britannique son plan pour le Brexit, un Parlement, rappelons-le, où il a perdu sa majorité et qui a par ailleurs rejeté à 3 reprises déjà le texte négocié par sa prédécesseure Theresa May. Alors hier, le Premier ministre a de nouveau promis de réaliser la sortie de son pays de l'UE quoi qu'il arrive le 31 octobre prochain. Manière de mettre la pression sur des Européens plutôt circonspects au regard de l'offre qu'ils ont reçue hier et présentée par Londres comme la seule alternative à une sortie sans accord à la fin du mois. La décision était très attendue, pas moins de 15 ans que l'affaire était examinée par l'OMC. Elle est finalement tombée hier avec d'ores et déjà la menace d'ouvrir un nouveau front dans la guerre commerciale mondiale lancée tous azimuts par le gouvernement de Donald Trump. L'Organisation mondiale du commerce a en effet autorisé Washington à imposer des taxes d'un montant de 7,5 milliards de dollars sur les biens européens. Une pénalité qui vient en réalité sanctionner les subventions accordées par l'Europe à Airbus et jugées illégales par l'OMC, ou dit autrement, représailles aux aides accordées à l'avionneur européen. Et bien l'organisation a autorisé les États-Unis à infliger à l'UE des sanctions, en l'occurrence les plus lourdes jamais imposées jusque-là. Marie Viennot, bonjour.
Bonjour.
D'ici 2 semaines, les États-Unis vont donc pouvoir appliquer des droits de douane supplémentaires sur un certain nombre de produits industriels et agricoles importés de l'UE, comme par exemple le vin français, le fromage italien ou bien encore le café allemand. Pourquoi, Marie, le fait de juger illégal les subventions accordées à l'aéronautique conduisent aujourd'hui à pouvoir taxer du fromage?
Alors pour comprendre, il faut revenir dans les grandes lignes sur l'histoire de ce conflit juridique de 15 ans. La décision de l'OMC considérant que les subventions à Airbus n'étaient pas compatibles avec ces règles a été rendue en 2011. Après quoi, l'Union européenne était censée changer ses règles. Elle ne l'a pas fait complètement. Les États-Unis ont donc à nouveau saisi l'OMC et demandé le droit d'appliquer des mesures compensatoires. Le principe, c'est: puisque vous continuez d'enfreindre les règles de l'OMC et que cela continue de me pénaliser, je demande à l'OMC d'évaluer le montant de mon préjudice,
qu'ainsi je puisse faire pression sur vous pour que vous mettiez en conformité avec la règle de 2011. De la pression juridique, en quelque sorte, qui n'a pas fonctionné, on passe à la pression commerciale avec l'aval de l'OMC et pour un montant décidé par l'OMC. Cette pression, les Américains sont libres de la mettre où ils veulent. Voilà pourquoi ils peuvent décider sur quels produits appliquer des droits de douane supplémentaires. Pour ce choix, leur logique, elle est double. Pénaliser d'abord les produits des pays où Airbus a des sites de production. Voilà pourquoi l'Espagne, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont touchés. Et éviter que la hausse des droits de douane se répercute sur leurs consommateurs ou leur industrie. Car si l'exportateur européen est sûr de vendre son produit aux États-Unis, même à un prix plus cher, il va répercuter la hausse du droit de douane sur ses prix. Sa marge ne sera pas touchée, mais c'est l'acheteur américain qui paiera la taxe. Voilà pourquoi une hausse de taxe minime est prévue pour les avions européens, parce que les compagnies aériennes américaines seraient handicapées si elles devaient acheter des Airbus plus chers.
Alors hier, les États-Unis ont précisé que ces droits de douane supplémentaires s'appliqueraient dès le 18 octobre. Y a-t-il encore une chance, Marie, que ces surtaxes ne voient jamais le jour?
Alors côté européen, on espère toujours pouvoir négocier avec les Américains avec trois arguments. Un, on est en train de se mettre en conformité, les subventions vont cesser, promis. Deux, en 2020, l'OMC va aussi nous autoriser à prendre des mesures contre vous pour vos subventions à Boeing. Vous avez donc seulement 6 mois d'avance sur nous, faisons déjà une trêve. Vous y avez tout intérêt car, troisième argument, nous avons des droits à taxer sur vous dans un autre conflit et nous les utiliserons. Alors là, on serait clairement dans l'escalade. Ni l'Union européenne ni les États-Unis n'y ont intérêt. Mais comme le président américain aime les bras de fer, tout est ouvert.
Merci Marie Viennot. Le couvre-feu imposé la veille dans la capitale Bagdad n'y aura rien changé ce matin. Des affrontements de nouveau éclatés entre manifestants et forces de sécurité au troisième jour d'un mouvement de contestation contre la corruption mais aussi le chômage. Mouvement qui a déjà fait 18 morts. Les précisions de notre correspondante Lucie Wasserman. Alors, nous pouvons écouter peut-être le reportage de Lucie Wasserman.
La situation a pris un autre tournant depuis hier à Bagdad. Un couvre-feu a été instauré ici. Les rues normalement noires de monde sont aujourd'hui quasiment vides. Ce couvre-feu devrait se prolonger jusqu'à nouvel ordre. Autre mesure radicale prise par le gouvernement, tout le réseau Internet a également été coupé ici. En parallèle, deux fortes explosions ont été entendues au milieu de la nuit. Des explosions que la coalition internationale a confirmées dans un communiqué ce matin et qui se sont produites à l'intérieur de la zone verte. Ce quartier ultra sécurisé à Bagdad, où sont basées la plupart des institutions politiques. Nous n'en savons pas plus pour le moment, mais selon les médias locaux, il s'agirait de tirs de roquettes, des tirs qui ne sont pas sans précédent. Les États-Unis les avaient récemment attribués à des groupes pro-iraniens. La situation est donc extrêmement confuse. Rien, pour l'heure, ne permet de penser que ces tirs viendraient des manifestants qui, je vous le rappelle, protestent depuis ce mardi contre le manque de services et contre la corruption dans le pays.
Comme chaque jeudi, à présent, l'invité politique de la rédaction, aujourd'hui en direct et en duplex depuis l'Assemblée, Barbara Pompili, députée La République En Marche, présidente de la Commission du Développement Durable à l'Assemblée Nationale. Bonjour madame.
Bonjour.
Et à vos côtés pour vous interroger, Rosalie Lafarge. Bonjour Rosalie.
Bonjour.
Une première question, madame Pompili. Une semaine tout juste après l'incendie de l'usine chimique Lubrizol à Rouen, de nombreux habitants restent toujours rongés par une angoisse mêlée de colère. Hier, Elisabeth Borne, auditionnée à l'Assemblée, a eu beau réaffirmer que le gouvernement n'avait rien à cacher. Les réponses données par les autorités depuis cette catastrophe sont encore jugées par beaucoup insuffisantes ou trop partielles, du moins pour faire taire les inquiétudes. Mais au-delà, la question de fond aujourd'hui, c'est celle de la gestion des risques industriels qui accompagnent ces quelques 1300 sites classés Seveso en France. Or, malheureusement, à la faveur de cet incendie, on redécouvre aujourd'hui qu'en juin de l'année dernière, un décret gouvernemental a réduit le périmètre des projets soumis à évaluation environnementale. Pourquoi ces assouplissements dans la réglementation, madame Pompili?
C'est une des questions qui a été posée par une députée hier pendant l'audition de la ministre, qui a eu l'occasion à ce moment-là de dire que les études de danger, elles, n'étaient pas visées. C'est-à-dire que quelle que soit la procédure, il y avait toujours des études de danger, mais que effectivement, il allait falloir regarder les mesures de prévention étaient suffisantes au regard des risques. Et d'une manière générale, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais je crois que cette crise montre vraiment que la culture du risque dans notre pays doit absolument être améliorée.
Question Barbara de Rosalie Lafarge.
le Premier ministre est allé à Rouen, 4 ministres sont allés à Rouen. Le gouvernement veut montrer qu'il prend la mesure de la catastrophe. Dans cette crise, où est Emmanuel Macron ?
Écoutez, le président de la République fait ce qu'il a à faire. Moi, c'est pas moi qui vais dire ce qu'il a à faire. Par contre, on a un gouvernement qui est en charge de ce genre de choses. Et donc, c'est normal que les ministres concernés soient allés sur place. C'est la moindre des choses. Vu le débat et l'ambiance actuelle autour de ce qui se passe à Rouen, qu'est-ce qu'on aurait dit s'ils n'y étaient pas allés hein ? Donc, ils ont bien fait d'y aller. Maintenant, on a aujourd'hui un sujet de renouer la confiance, puisqu'il manque de confiance dans la parole publique pour des raisons bonnes et mauvaises. D'ailleurs.
Mais au-delà du manque de confiance, est-ce qu'il n'y a pas un problème global sur la communication de l'exécutif depuis une semaine ? Est-ce qu'on peut dire tout est sous contrôle, l'air n'est pas pollué et en même temps, on ne sait pas tout ?
Oui, le Premier ministre lui-même l'a reconnu, la ministre l'a reconnu aussi hier en audition. Sur la communication, il y a clairement des améliorations qui pourraient être faites et notamment, je crois qu'il fallait évidemment, et c'était le rôle du préfet, d'éviter la panique à ce moment-là. Il fallait que le préfet ait des paroles rassurantes et donne les instructions aux populations sur ce qu'il fallait faire, le confinement, etc., pour éviter que les gens s'enfuient sur les routes en bloquant tous les véhicules de secours. Donc, il y a eu cette parole-là qui était normale. Après, je crois que la population, aujourd'hui, est capable d'entendre qu'on ne sait pas tout, et peut-être qu'ils auraient dû le dire avant, qu'on n'a pas toutes les informations. C'est très frustrant, on aimerait bien tout savoir tout de suite, mais qu'il y a un temps de l'analyse et de l'expertise, et qu'en attendant, il faut prendre des mesures de précaution. Voilà. Et qu'après, au fur et à mesure, on récupère les informations et on s'adapte.
Mais est-ce que le fait de donner la liste des produits présents sur le site 6 jours après l'incendie, est-ce que ça, ce n'est pas un peu tard ?
Alors pareil, ça fait partie des questions qui ont été posées hier et sur lesquelles je crois qu'il faudra se pencher d'un peu plus près. Parce qu'il y a la question des produits qui étaient présents et il y a la question des produits qui ont brûlé. C'est pas tout à fait la même chose. Et on voit bien que même en ayant cette liste, on est tous un peu embêtés parce que la question qu'ils aient brûlé, ça pose aussi la question de quelle quantité, quel mélange, quelles conséquences ça a sur la santé, quelles conséquences ça a sur la pollution.
Mais est-ce que c'est normal aujourd'hui qu'on ne sache pas ce que donnent ces produits mélangés qui brûlent ?
Mais parce que chaque cocktail est différent. Chaque cocktail est différent et donc ça demande des analyses. Et encore une fois, il faut comprendre dans ce temps de l'immédiateté que nous vivons aujourd'hui qu'il y a aussi un temps pour les analyses et que on sait qu'il y a des risques, notamment sur les dioxines par exemple, c'est quelque chose qui a été identifié assez vite. Mais maintenant, il faut qu'on regarde si ces risques sont avérés, où ils se trouvent. Malheureusement, ça risque de se retrouver dans les sols et c'est ça qui est très embêtant. Quel impact ça a sur les sols, sur l'eau, quel impact ça a sur les productions agricoles ? On ne va pas commencer à raconter n'importe quoi sous prétexte qu'il faut donner des réponses vite parce que ça a des conséquences graves sur du monde. Tout
ça. Est-ce qu'on peut honnêtement dire aux habitants de Rouen et des alentours aujourd'hui qu'ils ne risquent rien ?
On ne peut certainement pas dire qu'ils ne risquent rien. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que, eu égard à ce qu'on sait aujourd'hui, on essaye de maîtriser au maximum le risque. Et c'est ça, je crois, le point nodal de cette crise, c'est qu'il faut qu'on accepte aujourd'hui qu'il y a des risques autour de nous et que les risques, on ne peut pas tous les éviter, le risque zéro n'existe pas, mais par contre, il faut qu'on ait des comportements et des politiques adaptées à chaque risque. Et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, qui doit être fait par les pouvoirs publics, et heureusement, il y a des plans de prévention des risques, mais il faut aussi que ça rentre dans notre culture, à nous tous. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui vivent à côté d'usines Seveso ou à côté de centrales nucléaires, parce que c'est à peu près le même état d'esprit, ne savent pas comment réagir s'il y a un problème. Alors qu'on sait et il y a des plans qui existent pour prévoir cela.
Au Sénat, on va vers l'ouverture d'une commission d'enquête sur cette affaire. À l'Assemblée, on est plutôt mission d'information. Ça sert à quelque chose ?
Ah bah oui, on a besoin de se poser, on a besoin de sortir de l'émotion et on a besoin d'analyser clairement les séquences.
Et d'en tirer des leçons.
Donc oui, il faut que les parlementaires exercent leur pouvoir de contrôle. Alors j'entends qu'il y a un petit débat sur mission d'information, commission d'enquête. Franchement, moi, pour avoir été rapporteur d'une commission d'enquête, oui, ça nous donne un certain nombre de moyens supplémentaires. Maintenant, je vois mal, même dans le cadre d'une mission d'information, Lubrizol, avec tous les projecteurs sur lui, se soustraire à des demandes d'information de la représentation nationale. Ça m'étonnerait beaucoup.
Mais quelles sont les leçons principales à en tirer pour vous de cette affaire-là ?
Alors, les leçons principales, de toute façon, c'est dans 3 domaines. C'est comment on gère les risques en amont. Donc, est-ce que on revoit la législation sur les Seveso ? Est-ce qu'il faut mieux réguler l'urbanisation autour, par exemple ? Comment on gère la crise sur le moment ? Comment on prépare les populations à gérer une situation de crise ? Puisque là, ça a été fait quand même. Mais il y a eu un problème d'information. Et après, comment on gère la suite ? C'est-à-dire les conséquences, les pollutions l'information diffuse, etc. Et comment surtout on accepte que le monde est changé et qu'il faut mieux associer les populations, leurs élus, les associations, des experts indépendants pour rétablir la confiance.
Barbara Pompili, une dernière question. Demain débutent les travaux de la Convention citoyenne pour le climat. 150 citoyens tirés au sort pour trouver des solutions. Est-ce que 150 Français tirés au sort peuvent faire ce que les pouvoirs publics n'ont pas réussi à faire jusqu'ici?
En quelques mots, s'il vous plaît.
On ne va pas leur mettre la pression. On va les laisser déjà exprimer leur point de vue et donner leur avis. C'est ce qu'on leur demande. Ne leur demandons pas plus que ce qu'ils peuvent faire.
Merci Barbara Pompili, députée LREM, présidente, je le rappelle, de la Commission du développement durable à l'Assemblée nationale, d'avoir répondu à notre invitation en direct et en duplex du Palais Bourbon. Merci également à Lucien Lefebvre pour les moyens techniques ainsi qu'à Rosalie Lafarge. On termine avec un mot de météo. L'après-midi sera marqué par l'arrivée d'une nouvelle perturbation depuis la Bretagne. Ces averses gagneront progressivement des régions allant des Pays de la Loire à la frontière belge. Partout ailleurs, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies. Les températures, elles afficheront entre 12 et 24 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.